Bon, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne.
Imaginez, vous vous retrouvez parachuté dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous devez rejoindre une destination assez lointaine, sans un sou en poche, et d'ailleurs sans poche du tout. Vous êtes entièrement nu, et pour couronner le tout, eh bien vous êtes filmé. Pour à peu près tout le monde, ce scénario s'apparente à celui d'un affreux cauchemar. Pour à peu près tout le monde, mais pas pour nos invités, Nance Thomasset et Guillaume Mouton, alias Nance et Moutz. Depuis 2012, chaque été, ils reviennent sur France 5 avec de nouveaux épisodes de leur série intitulée « Nus et culottés ». Personne ne les a obligés à s'infliger ça. C'est même eux qui ont eu l'idée de partir à l'aventure dans le plus simple appareil en se fixant un défi un peu fou, comme aller prendre le thé chez un lord anglais, aller manger des chocolats avec le roi des Belges ou encore voir une aurore boréale en Islande. Ces périples qui commencent comme des paris un peu potaches donnent souvent lieu à de très belles rencontres où se mêlent éclats de rire, tendresse et générosité. Demain, à 20h50, France 5 diffusera un épisode inédit de leurs aventures au Québec, l'occasion pour nous de faire connaissance avec ces drôles de voyageurs.
L'autruche.
C'est bon, on est bien prêt là.
Ça y est.
Pour partir dans un nouveau rêve. On est dans le Colorado, mais le Colorado provençal. On cherche la neige cette fois-ci.
On veut aller en Autriche pour se fabriquer un igloo et passer la nuit dedans.
Comme d'habitude, on n'a pas d'argent, pas de vêtements,
pas d'équipe technique.
Seulement nos caméras. Une ici.
Une ici.
Et une là.
Bonjour Nance et Moutz.
Bonjour. Bonjour.
Ainsi commence chaque épisode, un défi un peu barré, en l'occurrence il s'agissait de partir construire un igloo. Vous l'aviez en tête ce défi, c'était quoi?
C'était construire un igloo dans les Alpes autrichiennes.
Ouais.
Donc ça c'était, à chaque fois on vient puiser nos rêves dans le répertoire des rêves de gosse. Et dormir dans un igloo, ouais, ça faisait longtemps qu'on en rêvait.
D'accord. Et puis, évidemment, vous démarrez chaque aventure nu comme des vers. Qui a eu cette idée de partir nu?
C'est venu quand on revenait l'un et l'autre de 2 années de voyage et d'avoir vécu aussi à l'étranger. Donc, faut replacer ça en 2010. Et pendant ces 2 années, on était très en lien, Nance et moi, à vouloir, à un moment donné, essayer de se retrouver pour voyager ensemble. Mais ça, c'était pas fait. Donc, autant dire que l'élastique était bien tendu. On s'est retrouvé en France à peu près en même temps, juillet 2010, on s'appelle au téléphone, ça te dit on part voyager, ça y est on a 5 jours de disponibilité commune, allons-y. Ok, on part voyager, allez chiche sans argent.
Ok, sans argent mais c'est déjà fait, ça te dit on va un peu plus loin, on part sans sac à dos.
Ok, sans sac à dos il me chauffe, donc sans sac de couchage, sans bagage quoi.
Et là je dis ok, bon on va partir depuis la nature, sans argent, sans sac à dos, et la Moutz rajoute.
Et mais ça te dit on part à poil. Chiche.
Mais là, c'était pas filmé, hein. C'est vraiment 2 potes qui se lancent un défi puis on joue la surenchère et ça finit comme ça.
C'est une histoire d'ego de deux gars qui lâchent rien, qui jouent au poker entre eux, de voir tiens à quel endroit il va céder quoi.
Alors avec nous, pardon, on avait juste pris quand même un petit sac étanche dans lequel on avait mis un appareil photo pour prendre quelques souvenirs de ce road trip. On avait pris un permis de conduire parce que le premier rêve de ce voyage c'était d'arriver à Paris en décapotable rouge pour sortir en boîte de nuit habillé en costard cravate.
Donc partir de la Drôme à poil, arriver à Paris en décapotable rouge. Ça s'est passé comment cette première version qui n'est pas filmée, dont personne n'a aucune image, vous pouvez nous raconter ce que vous voulez.
Oui, ça a été incroyable parce que on revenait donc de 2 années de voyage à l'étranger où on avait rencontré des humains qui, à nos yeux, étaient parus beaucoup plus généreux, beaucoup plus ouverts et beaucoup plus avenants que ce qu'on croyait connaître. Et en même temps, il y avait ce pari de « mais ça appartient pas au Guatemala, ça appartient pas, cette qualité d'humanité, elle appartient pas au Canada ou encore au Mexique ». Allez, viens, on y croit que même ici en France, on peut rencontrer aussi cette facilité de voyager. Et c'est effectivement ce qu'on a rencontré. On s'est retrouvé à faire du tracteur stop, du train stop, de l'avion stop, de l'hélicoptère stop en
même
France.
La première rencontre qu'on fait, nous on se disait mais est-ce qu'on va se faire accueillir avec un coup de fusil? Est-ce que les gens vont avoir peur? Est-ce qu'ils vont fermer leur porte à double coup?
Parce que la première rencontre c'est là où vous êtes à peu près à poil.
Voilà.
C'est
pour ça que pour notre premier voyage, on avait absolument aucune idée de ce qui nous attendait.
Ouais.
Et donc on avait trouvé de quoi se faire une mini jupe avec une bâche bleue, des tongs avec des planches qu'on avait trouvées sur le bord de l'eau. Et puis on va au bord de la route. On lève le pouce, et là, 2 minutes plus tard, une voiture qui s'arrête, la première, un gros camion blanc, on rentre devant, il y avait 3 places, et puis au volant, une femme blonde, 50-60 ans, qui nous parle pendant un quart d'heure Derrière elle, dans le camion, il y avait un dragster rouge avec des dents de requin à l'intérieur et une peau de loup sur le siège. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on est tombé, quoi? On pensait être fou, mais on avait trouvé plus fou que nous, quoi. Et au bout d'un quart d'heure, elle se retourne vers nous et elle nous dit, mais en fait, vous êtes à poil, les gars. Mais c'est génial!
Ah, mais attendez, je vais vous emmener chez ma cousine Berthe et puis on va vous trouver des trucs, machin.
Et nous voilà partis et ça a été incroyable de voir comme la vie, les gens ont pris soin de nous, alors qu'on n'avait rien, juste une bâche pour se couvrir le sexe. Quoi.
Et vous êtes arrivé finalement avec la décapotable rouge à Paris.
Et alors ça, c'était l'un des premiers gros enseignements de ce voyage, c'était de, ok, garde ton cap, on cherche une décapotable rouge, et en même temps, ça nous a appris à ouvrir et à élargir le regard pour voir que la décapotable rouge, c'était pas celle qu'on imaginait telle un cabriolet. Ça a été à un moment donné, moi j'étais dépité, crevé à la fin de ce voyage, on avait mal dormi, fait du stop, etc. Et à un moment donné, j'entends Nance qui crie « Moutz, dépêche-toi, regarde, regarde !» Et en fait, c'était un tuk-tuk, un taxi tuk-tuk rouge, décapotable. Donc on est allé voir la femme qui conduisait le taxi, on lui expliquait notre démarche. Et elle était enthousiasmée, elle nous a embarqués, on a fait un petit tour de Paris, remonter, descendre les Champs-Élysées. Donc pour nous, c'était notre décapotable. Ouais.
Le seul tuk-tuk rouge décapotable de Paris à l'époque.
Paris tenu, donc. Et alors Paris ensuite, il y a eu cette idée de refaire une émission de télévision. Qui a eu l'idée de faire de cette blague de potage, de ce délire entre potes, une émission de télé?
Eh bien, en fait, une fois qu'on est retourné chez nous de ce voyage, on a regardé les images qu'on avait prises avec notre appareil photo, donc on avait pris quelques vidéos. On l'a monté, ce petit film, en une nuit, mais on n'avait aucune connaissance. Hein. Ouais. Et le lendemain matin, on avait un petit film de 3 minutes. Et puis on s'est dit, allez, chiche, on l'envoie à une boîte de prod.
Donc, à ce moment-là, Nance envoie ça donc à Bonne Pioche, parce qu'on on avait regardé une boîte de prod qui est dans le documentaire, qu'est-ce qu'ils font? Bah tiens, allez, Bonne Pioche.
Parce que nous, à la base, on est ingénieurs en génie civil. Ouais. On n'a aucune expérience dans le
Vous avez
de
des
télévision.
Diplômes plutôt sérieux au départ, hein, pour finir à faire les ozos à la télévision.
C'est ça, justement. Je pense qu'on a eu besoin d'équilibrer le côté intellectuel et puis le côté un peu créatif. Ouais. Et du coup, on appelle une fois, deux fois, trois fois. Je me souviens, je tombais sur cette secrétaire qui me disait, mais t'es mignon, mais je peux pas te donner de réponse. Envoie-nous un dossier comme tout le monde, et puis peut-être dans 3 mois, si ça nous intéresse, on te répond. Et dans la journée, j'écrivais mon dossier, je le renvoyais. Bonjour, vous avez vu mon dossier? Fait, mais attends, je sais pas, il y en a 25 des personnes comme toi, toutes les semaines, qui nous envoient des dossiers. Je fais, ok, alors je leur envoie le lien de la vidéo, et puis là, par chance, il y a un producteur qui passe dans les couloirs, et là, ils nous disent, ok, les gars, c'est énorme, montez à Paris, on peut faire des vrais films ensemble. Ouais.
Donc ça démarre très vite, hein, cette histoire. Finalement, vous déclenchez toujours les choses partout où vous allez. D'ailleurs, on va se rendre compte de ce que ça donne, ces rencontres. Hein. Ça se passe souvent très bien. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir dans les épisodes à l'image. Par exemple, ici, dans le massif du Vercors, vous êtes avec juste une sorte de jupette faite de brindilles. Vous rencontrez sur le pas de leur porte un couple de retraités et la conversation s'engage.
Bonjour madame.
Monsieur.
Vous avez peut-être trouvé ça un peu curieux, mais on vient pour discuter, on vient pour faire connaissance.
Ah bon?
Bonjour monsieur.
Oui. Bonjour. Alors, vous êtes d'où? Vous êtes quoi?
On est en voyage.
Oui.
Dans un voyage un peu particulier, puisqu'on est parti sans rien du tout, sans
oui.
argent, sans vêtements. Et on filme notre voyage, c'est pour ça qu'on a nos petites caméras.
Oui.
Ça vous dérange pas?
Non.
Ok, super. Voilà. Et voilà, bon, on vient à la rencontre des gens. Et
là, je vais jouer un air d'accordéon.
Ah, bah, super.
J'ai joué avec les champions d'Europe.
Champion d'Europe, d'accord. Wow. On est directement dans l'ambiance là.
Beaucoup de gens qui n'ont plus d'activité dans le cerveau, le cerveau, il arrive à perdre ses neurones. Et moi, mon accordéon entretient tout directement. La femme, elle peint, puis elle...
J'écris tous les jours mon compte-rendu de vie. On a perdu notre fils il y a 6 ans.
Il s'est suicidé, je m'en suis suicidé, il s'est pendu.
Oui. Est-ce que vous avez compris son geste?
Oui,
ouais.
J'ai compris pourquoi.
Il y avait quelque chose qui n'avait pas dans le ménage.
Ah, vous l'avez accepté aujourd'hui?
Pourquoi vous dites presque?
Comment? Parce que j'étais longue. C'est pour ça que je lui écris tous les jours. Tous les jours j'écris, c'est ma thérapie, et puis voilà.
Et ça vous aide à accepter?
Accepter, oui. Mmh.
Voilà, 65 ans, d'ailleurs.
62 ans, pas 65.
Nance Moutz, il est assez emblématique cet extrait, parce que, alors déjà on voit, vous rendez normal une rencontre qui au départ est un peu bizarre, hein, faut vous voir, vous êtes en bagne avec ces brindilles autour, et puis ces personnes vous acceptent, oui y a pas de problème, rentrez, on va vous jouer de l'accordéon, ça commence bon enfant, et très vite, il s'installe quelque chose de très personnel, on vous confie des choses très intimes. Et ça, ça se produit très souvent. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous le provoquez? Est-ce que ça vous surprend vous-même, ce que vous déclenchez chez les gens que vous rencontrez?
Ce qu'on a pu découvrir au fur et à mesure de ces voyages, c'est que dans le fait de partir nu, il y a une double mise à nu qui se fait. Il y a la mise à nu des vêtements, mais celle-là, on la compense très rapidement en retrouvant d'autres vêtements. Mais ça implique une autre mise à nu, parce que comme on part sans argent, on peut plus exiger une chambre d'hôtel, on peut plus exiger un repas ou un taxi. Donc, on est obligé de se mettre dans une disposition où on accueille ce qui vient, parce qu'il y a rien, il y aura rien d'autre que ce qui viendra spontanément. Et dans cette nudité du cœur, ben, il y a l'espace pour que les gens puissent livrer ce qui est fragile. Parce que quand, dans le monde dans lequel on est, quand on a des choses fragiles, on en vit tous. Ben, si on est face à des exigences des uns des autres, ben non, ma fragilité, je vais la garder pour moi. Mmh. Et on a l'impression que, ouais, le fait de se mettre à nu, ça ouvre un espace de partage beaucoup plus sincère. Ouais.
Et aussi, ça réveille de la curiosité. Parce que naturellement, on va chez l'habitant, on est un peu dépendant des gens. Et du coup, la seule chose qui nous reste naturellement à faire, c'est s'intéresser à l'autre. Et dans cette curiosité, généralement, les gens sont hyper heureux de se livrer.
Alors, pardon de vous poser la question comme ça, mais comment vous avez réglé la question du ridicule? On a l'impression que le ridicule ne vous fait pas peur. Vous êtes prêt à vous mettre dans toutes les situations, à vous montrer comme ça, assez vulnérable finalement aux gens. Et finalement, ça se passe toujours très bien. Peu de moqueries, en tout cas, s'il y en a, elles ne sont pas montrées à l'image. On a l'impression que vous êtes toujours entouré d'énormément de bienveillance.
Ouais. Au début, on avait peur du ridicule quand même. Alors souvent, on se justifiait en disant « Non, mais en fait, voilà, c'est un projet, c'est une expérience, ça ne dure pas trop. » Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que...
Il n'y avait pas besoin d'expliquer.
On avait peur, mais c'était nous-mêmes qui nous jugions de décaler. Mais qu'en fait, quand on assumait notre démarche, jusqu'à un jour où on est arrivé chez l'habitant en disant « Bonjour, on voudrait prendre une douche, est-ce que vous seriez OK ?» Et en fait, ça dérange. Ouais. Mais c'est un dérangement qui est positif. C'est-à-dire, ça fait sortir des rails. Et là, eh ben, on a accès à de la surprise, à de la joie. Les gens sont décontenancés un peu. Donc, on sort des autoroutes habituelles pour la rencontre.
Rien ne sert de courir. Il faut partir à poil. Telle pourrait être leur devise. Nous poursuivons nos aventures avec Nancy Mutz de la série Nu et culotté de France 5. Ils sont nos invités le temps d'un bivouac sur France Inter. Et pour l'occasion, ils ont enfilé une chemise.
Suddenly, I'm woken by a vision of your blue eyes, so lovely. And suddenly you're back with me, over hills and valleys deep, you find me. Oh, the night seems so long, and the days carry on, in spite of how I long for you. And the stars up above are invited to fall into these open arms of mine. Oh, and suddenly I feel the worst. Have we been doomed to die? Oh, and suddenly, have I been cursed to live alone this life? I am waiting, all on my own, I'm waiting for you to come home.
Suddenly I hear your voice, and so
sounds just like a lullaby. Suddenly I see you smile for a while, for a while. Could it be, can it be, for a while, for a while?
Que c'était calme et apaisant, c'était Suddenly chanté par Alani sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Bonjour, vous avez pas des réservations par hasard de gens qui vont en direction de la Martinique?
Non, je ne fais pas du tout.
D'accord.
Tu descendrais pas sur la Martinique par hasard?
Ah non, je monte.
Tu vas où?
À Antigone.
Notre solution, ce serait essayer de trouver des pilotes dans le coin, mais pour l'instant, je ne sais pas si je bouge ou pas.
Ah non, je vole pas aujourd'hui.
Vous avez des connaissances qui voyagent en ce moment?
C'est moyen, ouais. Il n'est pas là tous les jours, mais je sais que son radar est là, il a un avion.
C'est qui, Simon? C'est un pilote connu en Guadeloupe?
Oui, il y a longtemps qu'il est sur place.
D'accord.
Bon, on fait fonctionner le réseau à fond là. C'est un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. On frappe à toutes les portes. Allô, Simon? Ok, parce que donc ça, c'est un vol que tu vas prendre toi? Comment ça se passe?
Non, c'est mon avion. Je vais avec mon avion à la Martinique.
Tu vas à ton avion? Ok.
Oui.
Eh ben, on fait comme ça. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt.
Au revoir.
Nancy Moots de la série Nu et culotté. Nu, ils le sont quelques minutes au début du voyage. Culotté, ils le sont tout le long du parcours. Là, vous étiez en train de tenter de faire de l'avion stop. On était en Guadeloupe, c'est ça, Moots?
C'est ça, et on s'est retrouvé du coup dans le jet privé de Simon Ayotte, qui est l'un des créateurs d'une très grande compagnie aérienne, et qui nous a emmené dans son jet, un jet de, je sais plus, 5 millions d'euros, qui nous a permis de piloter aussi une fois que lui avait assuré le décollage. Donc ouais, ces voyages, ils nous permettent de rencontrer des situations que même l'argent ne pourrait pas nous permettre de vivre.
Mais qu'est-ce qui marche? C'est parce que c'est filmé? C'est parce qu'on commence à vous connaître? Ou c'est quoi? C'est le sourire? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Vous l'avez analysé, ça, ou pas?
Oui, alors bien sûr, nous, en tant que scientifiques, on s'est posé ces questions. On s'est demandé, est-ce que c'est les caméras? Donc on a fait tous les deux, l'un et l'autre, un voyage sans caméra.
Ouais.
Les rencontres étaient du même acabit. Après, on s'est dit, est-ce que c'est notre manière de parler, notre couleur de peau? On est parti, j'ai fait un voyage il n'y a pas longtemps avec un ami qui est marocain, Nabil, ouais. Et on a fait 5 jours sans parler. Et pareil, juste avec des signes, tu sais, on avait cette même hospitalité, cette même générosité. Et en fait, on s'est rendu compte que l'ingrédient principal, c'est la confiance. Mais plus fort encore, c'est la foi.
Ouais.
Et d'arriver avec le cœur ouvert, la confiance, et demander à un pilote d'avion, est-ce qu'on peut monter dans votre avion, avec un sourire? Mais ça ouvre toutes les portes.
C'est vrai que vous avez des bonnes têtes. Hein. On a envie de vous faire confiance, toujours souriant. On sent que vous n'allez pas leur faire de mal au vent que vous rencontrez.
Bah, puis au-delà de la tête, parce que ça, une fois qu'on l'a, on peut pas tellement la changer. Là où on dédie beaucoup de temps entre nous, c'est à prendre soin de qu'est-ce qu'on rayonne, qu'est-ce qu'on renvoie comme énergie.
Ouais.
Et ce qui est frappant, c'est de voir que particulièrement en stop, quand on est à une station-service et qu'on va solliciter plusieurs véhicules, très rapidement, on voit le miroir que les gens nous renvoient. C'est-à-dire que si entre nous on est en vis-bis, ou on est frustré d'un truc, ou en colère, ou je ne sais quoi, ben là, ce jour-là, on va rencontrer que des, entre guillemets, des cons.
Ouais.
Des gens qui nous disent, ben non, désolé, mais moi j'ai pas envie de ça dans ma voiture. Alors que si on est beaucoup plus ouvert, si on arrive à être dans plus de fluidité entre nous, ben là on va tomber sur des gens qui nous renvoient cette même ouverture.
Alors, ça marche souvent, ça marche pas toujours. Hein. Vous avez aussi parfois essuyé des refus. Par exemple, quand vous avez essayé d'embarquer à bord de trains de marchandises, hein, je crois que c'était en France, vous avez beaucoup insisté, vous aviez beau être ouvert, souriant. Là, ça n'a pas marché.
Ça, c'est le dernier rêve qui nous reste à réaliser, du train stop.
Ouais.
Dans Nuit et culotté. Donc merci de pas trop remuer le couteau dans la plaie. C'est vraiment, c'est pas tout le temps filmé, mais c'est un défi qu'on tente quasiment à chaque saison.
D'accord. Donc, mais c'est bien qu'il reste des rêves et des défis.
Ah mais bien sûr, bien sûr. Et puis nous, on est preneurs aussi bien des réussites que des, comme tu appelles, des échecs, parce que c'est des moments où on se remet en question, on remet aussi en question notre attachement. Est-ce que c'est de l'obstination? Est-ce que c'est de la persévérance?
Ouais.
Comment suivre un cap tout en restant ouvert? Mais ça, c'est des questions, c'est pas que le voyageur qui se pose ces questions, c'est nous tous.
Ouais.
C'est toi, c'est moi, c'est nous, quand on a un rêve, quand on veut obtenir quelque chose, réaliser quelque chose de grand dans notre vie, comment est-ce qu'on garde notre cap et qu'on reste ouvert aussi aux aléas de la vie?
Avec le goût quand même de la difficulté supplémentaire, parce que effectivement on a dit train stop, avion stop, autostop bien sûr, mais quand vous faites de l'autostop, là vous vous mettez un petit défi supplémentaire parfois, et si on ne parlait pas du tout? C'est-à-dire qu'on va essayer de se faire embarquer, mais on ne dit pas un mot, c'est uniquement avec des gestes, et ça complique encore la chose, mais je crois que c'est un souvenir fort pour vous, Nance.
Ah ouais, moi j'ai adoré, parce que c'est inviter le jeu dans le voyage. Ouais. Et en fait, on se rend compte que les gens sont joueurs, ont envie de jouer aussi. Je me souviens de ces deux jeunes-là qui nous ont pris dans leur voiture. Et pendant une heure, on a communiqué avec eux, avec des signes, ouais, avec des sourires, en dansant. Et quand on peut plus utiliser le langage verbal pour communiquer, ben, on trouve d'autres langages. Mmh. Et c'est tout aussi riche.
Ouais. Ouais, c'est ça. Vous expérimentez, en fait. Hein. Exactement. Vous expérimentez sur la relation humaine. Où est-ce que vous avez été le mieux accueilli, si cette question n'est pas trop simple, Mout?
C'est assez difficile de trouver une région dans laquelle on est très bien accueilli, parce que plus on chemine, plus on s'aperçoit que c'est vraiment l'état dans lequel on arrive qui va, ouais, grandement contribuer à ce que l'accueil soit de qualité. Et alors certes, on pourrait dire que dans le nord de la France, au Québec, on a reçu un très bel accueil, mais vraiment on a pu être très surpris de voir que à Paris, là où tout le monde nous disait non mais à Paris vous trouverez jamais quelqu'un qui ouvrira votre porte, dans les grandes villes en général, eh ben on a eu tout l'inverse. On a rencontré des gens qui, une jeune femme à Paris, avec qui on a discuté sur le bord, enfin, dans la rue. On a eu un bel échange, c'était chouette, mais au bout d'un moment, elle a dû partir. Elle nous a dit, bon, les gars, là, j'ai un rendez-vous, je dois y aller, je vous laisse le code de l'entrée de mon immeuble, je vous laisse la clé de mon appartement et on se retrouve chez moi à 20h, je vous héberge ce soir. Ouais. Et ça, ah ok, en plein Paris, c'est possible.
Et c'est assez incroyable, effectivement. Alors pour cette nouvelle saison, vous avez testé l'hospitalité légendaire des Québécois. Hein, c'est la saison actuellement diffusée sur France 5 avec un nouvel épisode inédit demain. Ils ont été à la hauteur de leur réputation, les Québécois?
Ah, largement, ouais. Ah ouais, c'est les cousins. Ouais. Ouais. Je connaissais déjà un peu, j'avais voyagé là-bas. Mais de se remettre dans le bain en mode nu et culotté, c'était une sacrée découverte pour nous. Il y a un point qui m'a en particulier touché, c'est la capacité qu'ont ces Québécois à se livrer et, ouais, à parler d'eux-mêmes, ouvrir leur cœur.
Alors quand on s'invite à l'improviste chez des inconnus, on atterrit parfois dans des intérieurs étonnants, disons, comme ici chez Roger, très accueillant mais pas très rangé.
Vous voyez, là, actuellement ma maison est à l'image de ma tête.
Je te répète dans sa tête.
Rangé, mais on salue pas les beaux bordels, quoi.
Ah, c'est un joyeux bazar. Et merci de nous accueillir là-dedans.
C'est un peu à l'avenant, mais c'est pas grave, on pousse ça sur les côtés. Quand ma mère a déménagé, j'ai déjà récupéré des choses à elle. Puis elle est restée 2 ans, puis elle est morte. J'ai récupéré encore ces choses.
Donc vous vous retrouvez avec une maison en semi-déménagement, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Non, non, mais il y aurait eu moyen de faire mieux.
Mais avec grand plaisir de vous aider.
Très bien.
Enfin, au moins la cuisine, que vous puissiez avoir un espace pour cuisiner.
On va tous dégager ce coin-là pour couper, préparer, okay, et faire des préparations.
Hein. Est-ce qu'on ne ferait pas une caisse à jeter pour directement évacuer les choses qui sont
trop? Ça serait peut-être pas une mauvaise idée.
Allez.
Roger, très généreux. Un poil bordélique, on l'a compris. Ce qui frappe encore une fois avec Roger, c'est que au départ, c'est vous qui êtes demandeur, comme toujours, d'un toit, de manger quelque chose, de prendre une douche. Et très vite, avec lui, c'est flagrant, les rôles s'inversent. Vous devenez son ange gardien, vous commencez à essayer de ranger, vous vous occupez de la paperasse administrative, vous l'écoutez par rapport au deuil de sa mère. Et très vite, finalement, vous lui offrez beaucoup plus que ce que lui a commencé à vous offrir.
Alors, je sais pas, parce que nous, on a reçu énormément ce jour-là. Matériellement, bien sûr, mais il s'est confié à nous. C'est aussi un cadeau. L'écoute, ouais, c'est un cadeau, mm-hmm, mais le fait de se confier, c'est aussi un cadeau. Je sais que ce qui a été difficile au début, c'est que on comprenait pas ce qui lui arrivait à ce Roger. Et il parlait énormément avec un débit de parole très, très grand. Beaucoup plus que nous, ce qu'on pouvait assimiler. Et il y a plein de moments où on s'est dit, mais on va partir parce que là, c'est juste infernal. Et je sais pas ce qui nous a fait tenir, peut-être cette envie vraiment d'aller toucher la pépite chez cet homme-là. Et on a compris à la fin qu'en fait, il avait une fibromyalgie et la douleur qu'il ressentait dans son corps lui donnait envie de parler tout le temps pour oublier sa douleur. Mmh. Et quand on a compris ça, progressivement, il nous a invités à découvrir sa vie. Et là, c'était une leçon de vie. Mmh.
Vous avez même fait un bout de voyage avec lui. Après, ouais. Vous l'avez emmené dans vos aventures. Vous étiez en costard. Il avait 3 costumes. Il vous en a offert 2 et puis il a mis le 3e.
Et puis quelle aventure, puisqu'il nous a conviés à l'enterrement de sa maman. Et c'est ça qui est dingue dans ces voyages, c'est qu'on se retrouve à vivre, du fait de se faire confiance, des expériences uniques dans lesquelles on ne sait plus qui donne et qui reçoit. Au bout d'un moment, c'est juste des humains qui se rencontrent, qui sont solidaires les uns des autres et qui s'épaulent dans les manquements qu'on peut avoir les uns et les autres.
Alors le côté ange gardien a ses limites. Hein. Je pense à cette pauvre dame au Québec, toujours âgée de 77 ans, qui vous accueille chez elle. Alors elle est un peu seule, elle a perdu son mari récemment. Elle vous reçoit très bien, vous la remerciez, tout se passe très bien. Et pour la remercier, vous lui proposez de faire un petit tour de pédalo sur le lac à côté de chez elle. ça a failli très mal finir cette histoire.
Vous l'avez déjà fait de traverser le lac en pédalo?
Non.
On fait ça aujourd'hui?
Non.
Bon, tranquille.
On s'est éloigné du bord.
Il y a le vent qui commence à se lever, direction la maison. Je suis pas très rassuré là. On prend l'eau. Là, ça devient vraiment dangereux. Est-ce que vous avez un numéro au cas où pour appeler les secours?
Non.
Pas de numéro?
Non. J'ai sur place tout à l'heure.
On est obligé de faire marche arrière parce que si on va vers l'avant, l'eau elle rentre et on fait du sur place. Eh ben, ça calme.
Sur le coup, Moutz, vous ne rigoliez pas du tout. Vous sembliez vraiment inquiet sur votre pédalo non, qui non. Prend l'eau au milieu de ce lac.
Bah oui, parce qu'il faisait pas chaud, que le vent nous poussait au large et que même si un pédalo est supposé être insubmersible, ça c'est sur le papier et maintenant dans la réalité, quand on le voit prendre l'eau, ouais. Là c'est beaucoup plus inquiétant. Ouais.
Alors vous, Nance, par contre, vous étiez mort de rire. Je sais pas si c'était nerveux, mais vous aviez l'air de trouver ça encore rigolo à ce moment-là.
C'est complètement nerveux.
Fallait évacuer.
Je rigolais, j'en pouvais plus.
Elle vous en a pas voulu, cette pauvre dame. Elle s'est rendue compte de ce qui s'était passé.
Je sais pas si elle se rendait compte de ce qui se passait.
Elle avait l'air calme, en tout cas elle reste
très très calme,
impassible sur son
c'est,
pédalo.
C'est une femme qui a grandi au fin fond des bois, une époque où le confort était très loin de celui qu'on connaît. Donc il y avait aussi un côté où elle en avait vu d'autres et elle avait cette capacité à tenir droit dans toute situation. D'ailleurs c'est ce qu'elle nous témoignait dans le deuil de son mari, c'est qu'elle restait très droite.
Il faut quand même une sacrée complicité, hein, parce que pour faire face à toutes ces situations, là on en voit quelques-unes, hein, certaines sont parfois compliquées, certaines sont parfois rigolotes, mais dans toutes les situations, en tout cas à l'image, vous semblez prendre ça à la rigolade. Là, en vous interviewant, c'est flagrant. Vous prenez la parole l'un après l'autre. Vous vous passez la parole avec juste un regard. Quand je suis arrivé dans le studio, il se trouve que dans un coin, il y a un piano. Vous étiez en train de chanter tous les deux une chanson autour du piano. Voilà, juste pour le plaisir. Cette amitié, cette complicité, elle n'est pas feinte. Hein. Je la constate là. C'est ce qui aide. Vous ne pourriez pas faire ces voyages tout seul?
Bon, je pense qu'on pourrait faire ces voyages tout seul aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ça aurait le même sens. Moi je dis souvent la plus grande rencontre que j'ai fait dans ces voyages c'est celle de Moutz, parce que dormir dans le même lit, manger dans la même assiette, être au même endroit avec les mêmes personnes, au bout d'un moment la relation elle devient tellement intense, des moments où on a juste envie d'être à l'autre bout de la terre, de plus voir l'autre, mais comme on a cet engagement de réaliser un voyage et un film ensemble, eh ben, on va apprendre à communiquer, on va apprendre à se comprendre, on va apprendre à aller visiter nos zones obscures, aller visiter notre vulnérabilité, à se mettre à poil dans notre cœur. Et bah ça, c'est des enseignements qui construisent l'amitié. Ouais.
Les engueulades, vous les montrez pas à l'antenne. On a toujours l'impression que vous vous entendez.
Il y en a quelques-unes qu'on a partagées sur des questions de ce qu'on va à droite ou à gauche. Mais étant donné que le focus dans ces films, il est sur qu'est-ce qu'on peut construire entre individus qui ne se connaissent pas et qui souhaitent se faire confiance, donc entre nous voyageurs et avec des inconnus. C'est vrai qu'on partage peu. Ces moments d'animosité qu'on peut avoir entre nous. Par contre, on les partage volontiers, ben voilà, dans un moment comme ici à la radio ou en conférence, parce que pour nous, c'est tout n'est pas tout rose et tout fluide. Bien sûr, il y a énormément de moments d'ajustement. Je crois que c'est avec Nance que je me suis le plus engueulé de toute ma vie, parce que il y a des moments où il faut que l'un ou l'autre pose ses limites, dise à quel moment il en peut plus, à quel moment il aimerait aller à droite ou à gauche, et c'est primordial de pouvoir avoir cette sincérité et de se dire les choses telles qu'elles sont.
Allez, on va repartir au Québec dans un instant et puis faire un petit crochet par l'Écosse et l'Islande. Nance et Moutz de la série Nus et culottés sont avec nous le temps d'un bivouac sur France Inter.
You think that I am over you, but I have just better things to do.
da Nacho.
Things gonna be sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on.
Things gonna be.
C'était Alright sur France Inter dans le temps d'un bivouac et c'est signé Jane.
Et rentrer dans un bâtiment, on sait pas trop ce que c'est. Hey, je vais me trouver de ma vie. Il faut éteindre. On est dans une pièce où on peut pas allumer la lumière, sinon on se fait coincer par le pigeon.
Et il y a des excréments partout.
Il y a des cadavres de pigeons un peu dans tous les coins de la salle.
Mais au moins, il fait pas trop froid. Putain, c'est triste ce qu'on vient là pour rencontrer les gens. On se retrouve à les fuir.
Nancy Moots, prêt à passer la nuit dans un endroit pas très accueillant, on l'a compris. Il s'agit d'un extrait de l'épisode où vous partez d'Écosse pour aller en Islande. Cet épisode sera rediffusé demain soir après l'épisode inédit sur France 5. Racontez-nous un peu plus précisément dans quelle situation vous étiez là.
Ah bah, la vie n'est pas toujours toute rose. Hein. Ouais. Donc là, on était dans le nord de l'Écosse et on cherchait désespérément un moyen de traverser la mer du Nord pour arriver en Islande. Sans argent, bien sûr. Une première nuit, une deuxième nuit, une troisième nuit, on galère. On galère à trouver l'hébergement. C'est l'hiver, les gens sont beaucoup chez eux, plus méfiants, il fait nuit tôt. Donc c'est tout un contexte assez lourd pour pouvoir créer de la confiance avec nos interlocuteurs. Et là, on se retrouve précisément dans un immeuble abandonné, à essayer de trouver quatre murs et un toit pour se prémunir du froid, parce que bien sûr, on n'a pas de sac de couchage.
Ouais.
Et on arrive dans ce grenier là où en fait, on est obligé de fuir les gens, parce qu'il y a quand même quelques habitants et on veut pas que ça les inquiète et que du coup ils appellent la police. Donc c'est comme si la dynamique est complètement inversée.
Ouais. Et ça, vous vous retrouvez à vous planquer en fait.
Mais oui, c'est ça. Ouais. Là où on recherche le contact, au bout d'un moment quand le contact ne se crée pas, bah, il faut le fuir. Mmh. Et ça a été l'un des rares moments de nos voyages dans lesquels il a fallu vraiment compter uniquement l'un sur l'autre et sur la Providence pour qu'elle puisse nous ouvrir ses portes, même s'il y a des cadavres et des cadavres de pigeons et des excréments.
Ouais. Alors, on peut rentrer un peu dans les coulisses, parce que c'est vrai que les épisodes, à chaque fois, vous démarrez, donc on l'a compris, nu, avec juste les trois caméras, votre petit sac à dos. On ne sait pas comment vous êtes arrivé là, qui vous a laissé là, est-ce qu'il y a encore une équipe de tournage pas loin, est-ce que vous avez quand même dans une poche de secours un peu d'argent ou un portable au cas où ça tournerait mal. Est-ce qu'on peut savoir ça, ces coulisses-là ?
Bien sûr, bien sûr. Donc ça a évolué depuis le début de Nuit Culottée. Au début, on avait toujours un ami qui nous emmenait sur le départ, qui récupérait nos vêtements et qui passait la nuit pas très loin de nous, donc dans sa voiture généralement à 1 ou 2 kilomètres, pour nous assurer la sécurité si jamais on avait un problème. Et puis avec le temps, comme on a vu qu'on n'avait pas besoin de cet ami, en fait on n'a jamais eu affaire à lui, on s'est dit peut-être qu'on peut partir tout seul, sans une personne en backup. Et finalement, à la fin, on partait juste avec un t-shirt, un short, au moment de se mettre à poil, on les met dans un petit sac et puis on les met dans un endroit, soit dans une poubelle, soit on va les récupérer après, plus tard dans le voyage. Et on est de plus en plus autonome. Et voilà, et on se lance comme ça aujourd'hui, sans personne pour nous accompagner.
Donc pas de téléphone portable au cas où, pas un peu d'argent au cas où.
On a un téléphone portable avec nous et on a une carte bleue pour la casquette réalisateur. Parce qu'on a deux casquettes en fait. Il y a la casquette voyageur qui part avec son couteau et rien du tout. Et il y a la casquette réalisateur qui doit être capable de répondre à toute situation. S'il y a une caméra qui flanche, comme ça nous est arrivé plusieurs fois, s'il y a un micro qui a pris l'eau, si en fait on n'est plus capable techniquement d'assurer la réalisation du film. Et donc, ça nous demande d'avoir cette structure et cette force de, bah oui, on a un portable pour pouvoir appeler au secours s'il faut changer la caméra. Oui, on a de l'argent pour pouvoir racheter un micro.
Mais à aucun moment, s'il est 5h du mat et qu'on ne sait pas où dormir ce soir.
Et ben on dormira sur un palier.
Ouais. À aucun moment on utilise ça. Il y a un endroit où on est faible, on est assez fragile. C'est quand on part 3 semaines, qu'on sent loin de nos amoureuses, de notre famille. Des fois, on prend le portable, on fait, viens, on envoie un petit SMS quand même pour dire que ça va bien, ou pour recevoir des nouvelles.
Ça va, on accepte, ça ne tue pas le mythe. Vous disiez, on a ces deux casquettes, à la fois on vit l'aventure, à la fois on est réalisateur. Est-ce que ces deux casquettes, quand on rencontre, on les a aussi? Autrement dit, est-ce que quand vous rencontrez les gens, vous avez aussi un peu en tête, ça fera une bonne séquence? Vous voyez ce que je veux dire, le côté un peu calculé finalement, de se dire, qu'est-ce que ça donnera à l'image ensuite?
Alors je crois que le premier calcul, avant de se dire ça fera une bonne séquence, c'est juste est-ce que les rushs qu'on tourne vont être exploitables. Donc oui, bien sûr, il y a toujours cette double casquette de est-ce que je suis pas à contre-jour, est-ce qu'il nous reste de la batterie, est-ce qu'on a bien fait signer les autorisations de droit à l'image.
Comment sont les objectifs?
Chaque personne qu'on rencontre signe une autorisation de droit à l'image. Donc, il y a une qualité professionnelle dont on est garant en tant que réalisateur. Et donc, ça nous accompagne tout au long du voyage, du début à la fin. Maintenant, est-ce que la bonne séquence... En fait, on a ce luxe dans ces voyages, dans l'aventure Nuit et culottée, d'être accompagné par Charlène Gravel, qui est la co-réalisatrice et monteuse de ces films. Et les choix in fine de montage lui reviennent, ce qui nous permet, nous, d'être vraiment focalisés sur le voyage et sur la rencontre, et notamment avec cette intention de, quelle que soit la personne qu'on rencontre, on décide de croire qu'il y a toujours de la lumière en elle, et c'est ça qu'on va chercher. Maintenant, est-ce que ça fera une bonne séquence ou pas? Quelque part, ça ne nous appartient pas.
La question qu'on se posait au début, c'était, tiens, est-ce que c'est une bonne personne pour le film? Puis en fait, on s'est rendu compte que la vraie bonne personne pour le film, c'est nous ou c'est personne, quoi. C'est, est-ce que nous, on est disponible pour voir la beauté chez cette personne? Et la conséquence de ça, c'est qu'on est passé au début de 100 personnes rencontrées par film, à la fin à 10 personnes.
Ah oui.
Parce qu'on a arrêté de faire une recherche horizontale, de trouver la bonne personne qui va faire la séquence de fou. Et plutôt, on se disait, ok, on fait le pari de cette personne, on ne voit pas sa beauté pour l'instant, mais on y va, on y va et on cherche.
En Écosse, on a vu, hein, ça démarre un peu difficile. Est-ce que ça s'est arrangé par la suite? Alors, votre but, là, c'était d'aller voir les aurores boréales en Islande. Est-ce qu'on dit si vous avez réussi à les observer ou pas, ou est-ce qu'on laisse la surprise pour ceux qui regarderont l'épisode demain?
On peut le dire, hein, c'est un épisode qui date quand même de quelques années. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont le revoir. Les aurores boréales ont été au rendez-vous. Pour moi, c'était un des phénomènes naturels les plus extraordinaires de toute ma vie. Ouais. Vraiment. C'est incroyable. C'est le ciel qui se met à danser dans une poésie et dans une magie exceptionnelle.
Alors cet objectif-là, il était très poétique. Il y en a d'autres qui sont plus, on va dire, plus burlesques, comme aller manger des chocolats avec le roi des Belges. Vous avez réussi ce pari-là, de manger les chocolats avec le roi des Belges?
Alors celui-là, c'est une très bonne question, parce qu'on n'a pas pu rencontrer le roi. Par contre, on a été invité à venir déjeuner avec le prince Philippe. Et comme il ne voulait pas être filmé, il refusait qu'il y ait la présence d'une caméra. Nous, ça a été un enseignement de on a vécu le rêve jusqu'au bout, parce qu'il avait des chocolats, donc on a pu partager un chocolat. Par contre, comme c'était pas filmé, nous, ça nous a invité à ce que le film relate une autre profondeur, c'est-à-dire derrière l'objectif, il y avait la profondeur et qui est l'appel initial de ces voyages, qui est la rencontre, et qu'au final, nos rois, c'était les Belges chez qui on était hébergés à ce moment-là, qui pareil faisaient office de QG, parce que donc on est resté 15 jours chez eux. C'est le plus long séjour qu'on a fait chez l'habitant, 15 jours chez cette petite famille à Bruxelles.
JB et Isabelle.
Et donc, de cet endroit d'échec du point de vue du film, parce qu'on n'a pas pu partager cette aventure, il y a une immense réussite qui est de se rappeler à l'essentiel et à la simplicité.
Quels sont les objectifs qui vous ont le plus marqué au long de toutes ces saisons?
Je pense que cette saison-là, c'est deux objectifs. Je pense que ça fait partie des objectifs les plus marquants pour moi. Aller rencontrer une chanteuse à Montréal et construire une cabane au bord du lac Saint-Jean.
Ah oui. Alors, c'était une chanteuse québécoise. Hein,
une grande chanteuse québécoise. On avait vraiment cette ambition de se dire, est-ce que ce serait Céline Dion, Linda Lemay, Isabelle Boulay, Cœur de Pirate. À chaque fois, on a envie que ce soit quand même un challenge, parce qu'une chanteuse québécoise, il doit y en avoir des milliers. Maintenant, une grande chanteuse, il y en a quelques-unes. Et ça demande d'aller chercher des ressources en nous et avec les gens qui invitent à plus d'engagement. Et ça, c'est chouette.
Avec aussi beaucoup de chance, hein, parce que là, donc en l'occurrence, ça va être Linda Lemay, finalement, que vous allez réussir à rencontrer. Comment vous parvenez à la contacter, Linda Lemay ?
Manière assez incroyable, en fait. On se rend compte qu'on est un jour férié, donc plus personne répond au téléphone niveau institution, notamment la maison de disques. Et on se dit, on va faire une recherche sur Internet, voir sa ville natale, et puis voir s'il y a des Lemay dans cette ville. Sauf que des Lemay dans cette ville, il y en avait 70 pages de pages blanches, là. Tu vois. Et on a pris un nom au hasard, on a appelé, et en fait, il s'est trouvé que c'était sa mère.
C'est ça, vous tombez sur la mère de Linda Lemay au téléphone du premier coup. Mais ça paraît presque trop beau, on se dit c'est truqué.
Mais c'est ça qui est incroyable. Dans ces voyages, et depuis le tout début, il y a des miracles comme ça qui se passent et qui sont vraiment bluffants. À tel point que dans le tout premier voyage, donc on est dans le cirque d'Archiane en 2011, c'est notre tout premier voyage filmé. À l'époque, on ne parle pas de série Nuit et culottée, on parle d'un voyage que France 5 nous propose de faire. Il fait moins un degré la nuit, on passe la nuit dehors, il faut absolument faire un feu. On n'arrive pas à faire de feu, donc là la seule solution qui nous reste, c'est de trouver de la mousse ou des feuilles pour se faire une couverture.
Et donc on part dans la forêt, mais au bout de 5 minutes j'entends Moots qui hurle, qui me dit « Nance, regarde ce que j'ai trouvé ». On est en plein milieu de la forêt, d'accord. Sous un peu de mousse, il trouve un briquet.
Ah oui.
Et en fait c'était tellement incroyable qu'on n'a pas filmé ce briquet. On s'est dit, personne va nous croire. Donc on a fait semblant d'allumer le feu avec le kit de feu.
D'accord.
Mais ce feu-là qu'on a allumé ce premier jour de voyage, il a allumé un feu qui nous a accompagnés pendant 7 ans sur ces voyages. Cette confiance qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas anticiper, et on peut s'en remettre à ça.
Ouais, et qui est votre bonne étoile, qui fait que effectivement vous tombez du premier coup sur la mère de Linda Lemay, qui en plus est très sympa et vous dit mais il y a pas de problème, mais je vais transmettre.
Incroyable. Quoi.
Et du coup effectivement vous vous retrouvez invité chez Linda Lemay. Alors vous deviez lui chanter une chanson d'amour à la chanteuse québécoise que vous alliez rencontrer. Donc pour la composer cette chanson, c'est tout au long du parcours en fonction des gens que vous rencontrez, vous notez des petites phrases et ça crée cette chanson. Et effectivement la rencontre avec Linda Lemay a lieu.
Allô?
Ça va bien?
Bonjour.
Vous êtes les gens qui avaient appelé ma mère?
C'est ça.
Ouais.
Ça fait plusieurs jours qu'on est sur la route au Québec à votre rencontre.
Ah, c'est donc très gentil.
Ah. À chaque jour, on leur a demandé des mots. Offrez-nous un mot, offrez-nous une phrase pour qu'on compose cette chanson pour Linda tous ensemble.
Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est avec des... des idées d'un, des idées de l'autre, ça me fait penser à ce que j'ai vécu avec mon papa juste avant qu'il... Mais il nous a pas quittés. Pourquoi j'ai même pas l'air triste? C'est que je le sens très présent.
Il y a 2 ans, je pense, sur le lit juste à côté, mon meilleur ami d'enfance est resté libre et a aimé. Par amour, il est monté sur le sommet de l'Everest, nuance et sensibilité à travers la brume épaisse.
Il a rencontré sa haine, la peur et sa faiblesse, et il a tenu les rênes jusqu'à ce que la lumière apparaisse.
Il y a un petit côté Francis Lalanne, je ne sais pas si ça va vous déplaire ma comparaison. En tout cas, ça finit en apothéose, cet épisode. C'est incroyable, il y a public, il y a du monde, il y a une autre chanteuse qui vient chanter avec vous. Tout ça sans préparation, dans l'improvisation.
Mais c'est ça qui est dingue, c'est que ces voyages nous rappellent combien la vie, ça peut être ça. Et combien les miracles, c'est pas juste dans les livres. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on vit tous. On a tous vécu, au moins à un moment donné, un miracle, que ce soit de « Ah mince, j'ai oublié ma convocation pour le bac. Ah ben non, elle est au fin fond du sac. » Ou « Ah ben, j'ai absolument besoin de trouver une voiture, un boulot, je ne sais quoi. » Ben, c'est le contact de la voisine, du nanana, qui fait que à un moment donné, ça débouche. Et dans ces voyages... Le fait de le vivre, on a vraiment envie de se rappeler que c'est une amnésie collective. En fait, ensemble, on oublie que ça, c'est normal.
Ouais.
Que ça, c'est quotidien potentiellement et qu'on peut vivre ça à condition de se relier les uns les autres et de faire confiance.
Ouais. C'est ça. Et notre, on se rend compte que, on l'observe en nous, hein, notre réflexe, c'est de se dire, mais je peux compter que sur moi, en fait. Mmh. Si j'assure pas, il va rien se passer. Et du coup, on se blinde, puis on regarde devant nos pieds. Hein. Et ces voyages, nous, ils nous rappellent, hey, détends-toi, lâche, il y a quelque chose aussi qui prend soin de nous.
Alors ça, ce qu'on a entendu, c'était le premier épisode au Québec, il a déjà été diffusé. Le deuxième est passé la semaine dernière, il est encore visible en replay. Et puis, demain soir, vous nous emmenez donc au lac Saint-Jean, toujours au Québec. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode inédit, sans tuer le suspense et sans révéler toutes les surprises?
Oh, c'est une bonne question ça. Sans tuer le suspense. Je dirais que c'est un très bel exemple de comment, en suivant un rêve d'enfant, on a accompli quelque chose qui, enfin, qu'on n'aurait jamais imaginé. Vraiment. Si on avait pu l'écrire en livre, ça aurait jamais pu sortir de notre imagination.
Quelles sont les futures destinations que vous n'avez pas encore faites et qui vous titillent, que vous aimeriez faire?
Alors, c'est pas tant des destinations là qui me viennent à l'esprit, c'est plus des expériences de vie. On parlait tout à l'heure du train stop.
Ouais.
Il y a le fameux sous-marin stop.
Ah oui.
Qui nous attend.
Le bon vieux sous-marin stop. Parlons-en.
Peut-être un jour.
Non,
il y a ce côté challenge qui est, c'est un peu la patte de Nuit Culottée. C'est, on se donne un défi, soi-disant, très difficile à faire. Parce que derrière le défi lointain, il y a surtout un chemin à parcourir. Et c'est ça qui nous surprend.
Moi, je sais que s'il y a quelque chose que j'aimerais accomplir avant de terminer une culottée, c'est pas tant un moyen de transport, c'est plus des milieux sociaux qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est faire rencontrer le vagabond avec, pourquoi pas, un président. J'adorerais rencontrer le président des États-Unis.
Ouais.
Et qu'on ait une discussion, qu'on parte sur la route ensemble, ouais, même quelques heures, tu vois. Qu'on ait une discussion, montre-moi, il y a quoi derrière le personnage là.
On le voit, hein, c'est vraiment plus que des destinations, ce sont des rencontres et des situations, hein, que vous recherchez. C'est pas un lieu, c'est pas un paysage, c'est la rencontre.
Et ça, j'ai trouvé que c'est ce qui a le plus d'impact quand les gens nous témoignent un peu ce qu'ils ont vécu dans les films. C'est, mais je pensais pas qu'une personne aussi riche pouvait être si généreuse, par exemple. Là, dans un film au Québec, il y a un millionnaire qui nous accueille chez lui, qui nous donne à manger, des vêtements. Il arrête tout ce qu'il est en train de faire pour s'occuper de nous. Mmh. Mais moi, j'adore ça. Ça déconstruit les clichés qu'on a sur les personnes riches, les personnes plus pauvres. Et ça nous montre une générosité qui n'est pas culturelle, mais qui est naturelle, qu'on a au fond de nous, qu'on peut contacter.
Merci Nance Thomasset et Guillaume Mouton, alias Nance et Moots. Le dernier épisode, donc inédit, de la série Nuit et culottée sera diffusé demain soir sur France 5 à 20h50. Il sera suivi de la rediffusion de l'épisode en Écosse et en Islande. Bon retour à tous les deux et un grand merci d'être passé par le temps d'un bivouac.
Merci.
Merci beaucoup. Je pensais. C'était Charlotte Gainsbourg qui chantait Kate sur France Inter et la programmation du temps d'un bivouac est signée Djoubaka.
Voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre cette route, je vais couper par là et on se retrouve de l'autre côté.
Et demain à 16h, nous partirons à la recherche du volcan qui a engendré l'une des éruptions explosives les plus gigantesques de ces 10 000 dernières années. Une véritable enquête policière. Et à 17h, avec Cyril Dion, nous irons à la découverte des bonnes idées mises en œuvre aux quatre coins du monde pour préserver notre planète. À demain donc pour de nouvelles aventures.